Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme aujourd'hui, Fallout 3, Electronic Arts et le Japon, le com des coms, Skate 2, on parlera un petit peu du festival du jeu vidéo, sport, Monsieur Fall comme chaque semaine, et on terminera par notre invité de la semaine, Mathieu Minel, directeur marketing de Nintendo France. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mais je vais commencer par accueillir mes deux chroniqueurs favoris, Clément Impape. Bonjour Clément.
Bonjour.
Et Patrick Elio d'Eurogamer.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
On va commencer avec toi Patrick.
Ouais.
Tu voulais me parler d'Electronic Arts qui met le petit doigt de pied au Japon.
Alors on connaît bien Electronic Arts, c'est une des majors du jeu vidéo américaine. Et on sait que le marché japonais est
mondial,
un marché qui est d'origine américaine mais qui a une envergure mondiale. On sait que le marché japonais est plus difficile à toucher en général. Aujourd'hui, l'éditeur donc Electronic Arts ne cache plus ses prétentions à travailler avec le Japon, puisque en fait un partenariat a été annoncé il y a pas très longtemps avec le studio Grasshopper. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc c'est le studio de Suda 51 qui a développé No More Heroes sur Wii.
51. Suda 51.
Voilà, qui a développé donc No More Heroes sur Wii. Et donc un jeu serait en développement dans ce studio avec Monsieur Mikami qui serait aussi aux commandes. Alors, c'est quand même le créateur de Resident Evil. Donc
voilà.
C'est pas rien. Donc voilà, un jeu qui serait, on annonce encore assez vague, un jeu d'action horreur serait en développement chez ces gens-là, donc au Japon pour Electronic Arts. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que donc l'éditeur a dit que cette signature serait une première étape pour eux, qui pourrait leur servir de tremplin pour développer plus de partenariats de ce genre avec des studios japonais.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'Electronic Arts en ce moment change de politique. C'est-à-dire que ces dernières années, c'était exclusivement des studios qui étaient internes et qui faisaient des franchises internes. Mm-hmm. Et là, ils éditent de plus en plus de jeux développés par des éditeurs
de l'extérieur. Ils ont d'ailleurs un label pour ça qui s'appelle EA Partners.
Voilà. Et du coup, effectivement, les jeux qu'ils éditent sont assez intéressants. Donc, en tant que joueur, c'est assez intéressant
et
comme
nouvelle
politique.
C'est vrai qu'une nouveauté côté EA, c'est surtout l'apparition de nouveaux titres. Mm-hmm. C'est vrai que EA c'était un peu les spécialistes de mettre soit une année soit un numéro derrière le titre de leur jeu.
Et là
on commence à voir, on a vu Mirror's Edge enfin qui va arriver,
Dead Space qu'on attend fébrilement
aussi, sport qui est interne, mais voilà, il y a quand même.
Mais là c'est vrai que moi personnellement le partenariat Grasshopper, donc les créateurs de Resident Evil et de No More Heroes qui bossent sur le même titre, moi ça me donne envie. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Mathieu, pour s'implanter au marché du Japon, tu connais un petit peu, il suffit de recruter des développeurs japonais?
J'ai cru comprendre que Electronic Arts voulait acheter
pendant longtemps des développeurs japonais. Il y a eu des appels du pied auprès de très gros développeurs et que ça n'a jamais marché. Donc en même temps, on peut observer en ce moment une crise des studios de développement japonais qui se sont fait dépasser par les studios de développement nord-américains et qui le disent ouvertement. Donc je pense que maintenant ils y voient beaucoup plus leur intérêt d'essayer d'apprendre les méthodes de management d'équipe et de projet en allant voir le plus grand de tous, c'est Electronic Arts.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait c'est presque pas Electronic Arts qui est allé chercher les studios japonais, c'est les studios japonais qui ont accepté ou qui sont intéressés par bosser avec Electronic Arts.
Ah oui, non, je pense qu'ils veulent vraiment, apprendre les trucs, ils veulent vraiment apprendre tout ce qui est utilisation de middleware et essayer d'avoir quelque chose de moins artisanal, qui est plutôt quand même la spécialité des équipes de développement japonais. Et je pense qu'ils veulent aller vers quelque chose de plus industriel, plus américain, plus cadencé,
Plus lourd. Hein.
Exactement. Et peut-être aussi, pour apprendre aussi, comme vous le dites, ce système d'arriver à faire des suites. Annuel ou pluriannuel.
D'accord. Clément, Fallout 3.
Oui, Fallout 3, on en parlait la semaine dernière, puisque c'est un de mes jeux attendus, mais j'ai quand même peur du résultat. Et là, c'est une petite anecdote, mais qui donne aussi une idée de la mauvaise piste, enfin, selon moi, que prend le jeu. On sait qu'il y a certains pays dans le monde, notamment l'Australie et l'Allemagne, qui sont assez difficiles selon les critères drogue, violence, sexuelle, etc. Donc, ils censurent assez les jeux. Et Fallout 3, avec son thème post-apocalyptique et assez violent et assez subversif, on savait qu'en Australie il aurait des problèmes de censure. Et donc ils ont décidé de censurer l'utilisation de la drogue. Voilà, parce que dans Fallout 1 et 2,
il y aura plus de drogue.
Parce que le marché australien est particulièrement sensible.
Sensible.
Et alors, on compte plus les jeux interdits en Australie. Ouais. Hein,
en Australie et en Allemagne.
En Allemagne, oui, c'est connu pour la violence.
Et le problème, pourquoi pas, le problème, c'est donc que l'utilisation de la drogue dans Fallout 3 serait censurée, mais pas qu'en Australie, mais dans tous les pays. Voilà. Alors ça peut être un détail, mais dans le jeu,
ça en dit beaucoup quand même. Sur l'aspect transgressif d'un jeu comme Fallout.
En fait. On va prendre une barre énergétique à la place d'un.
En fait, ils vont changer les noms. Par exemple, avant on prenait de la morphine quand on avait mal, et forcément après.
Maintenant, on prend une pomme Granny.
Voilà. Disons, ça sera un nom peut-être inventé ou quelque chose du genre. Mais c'est vrai que ce qui était bien dans Fallout, c'était un tout petit aspect du jeu, mais quand on prenait des drogues pour être plus intelligent, pour résoudre une énigme, etc., après on pouvait être addict, donc il n'y avait pas que les côtés positifs qui étaient, enfin, supposés positifs qui étaient montrés, mais voilà, c'était un jeu adulte, enfin, Fallout 1 et 2 étaient des jeux adultes, assez subversifs, assez corrosifs, et là, ils enlèvent déjà un petit peu de ce qui faisait, pour moi, l'univers Fallout, donc à voir, c'est pas ça qui en fera un mauvais jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est...
Oyoyo, donc, qui est un de nos auditeurs, qui a mis en commentaire de l'émission précédente un post sur cette affaire-là, sur Fallout 3, et qui se demande si l'Australie a déjà interdit à la vente les DVD de Requiem for a Dream ou de Trainspotting. C'est vrai qu'il y a souvent, sur des thèmes identiques, un traitement différent sur le jeu vidéo et sur les films ou les livres ou ces genres de choses.
Tout à fait.
D'ailleurs, ça tombe bien, on va faire le commentaire des commentaires, le com des com de la semaine dernière. Donc c'est la nouvelle rubrique de cette année. On commence avec qui ? On commence avec Musitoff. Musitoff qui nous dit: concernant les salons de l'été, vous n'avez pas mentionné la perte d'exclusivité de Final Fantasy XIII annoncée à l'E3, un coup dur pour Sony, qui poursuit un des grands débats de cette génération dont vous avez, il me semble, parlé plusieurs fois la saison dernière. Je ne vois pas du tout de quel débat il s'agit, par ailleurs.
Si, c'était la perte des exclusivités.
D'accord,
Sony,
c'est ce débat-là.
PS3, ouais, je suppose. Hein.
La perte d'exclus de Final Fantasy, ça vous fait réagir ou...
En tout cas, à l'E3, c'était peut-être la seule annonce qui a été bien orchestrée lors d'une conférence. C'est toujours, on voit que Microsoft aujourd'hui, et c'est assez paradoxal parce qu'on s'y attendait pas, aujourd'hui Microsoft, c'est celui qui a le plus de RPG japonais sur sa machine. Voilà.
Ah oui, donc, qui est quand même une grosse surprise.
C'est une grosse surprise, voilà.
C'était un peu le
donc l'arrivée, voilà, l'arrivée de FF13 est pas non plus.
Est-ce que ça va aider à percer au Japon? Je suis pas sûr du tout.
Il y a beaucoup de gens qui veulent pas percer au Japon, c'est dingue.
Et ça marchait difficile.
Et autrement, Martinus, alors ça c'est plus, c'est pas vraiment sur les jeux vidéo, c'est n'hésitez pas à dépasser les 36 minutes, on ne vous en voudra pas. Donc pour info, c'est vrai qu'on avait commencé à un quart d'heure, hein, on a commencé cette année à 36 minutes, là où on avait commencé l'année dernière à un quart d'heure, donc qui sait à la fin de l'année où on en sera. Mais bon, je pense qu'on sera pas quand même beaucoup plus long parce que ça va désespérer nos amis de Libellabo sinon. Alors les bruits derrière, il faut reconnaître, il faut avoir une très très bonne oreille, c'est du skateboard, ce sont des chutes et tout ça, vous n'avez pas reconnu ? Non.
Non. Bon.
Bah non. Bah je vous le dis parce que c'est vrai que
on se regarde un peu c'est un peu gênant mais non.
Donc j'ai choisi ce son pour parler de Skate 2 qui arrive. Je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez vu ce que ça donne, si vous aviez joué au premier Skate.
J'avais joué au premier effectivement parce que
gameplay intéressant
et surtout novateur. Ouais, surtout qu'il se mettait en porte-à-faux par rapport à tous les jeux de skate qui existaient jusqu'alors,
qui sont plutôt gamers à la base, enfin, ouais. Qui sont assez difficiles à manier, avec les prises de
Tony Hawk, voilà,
de touches, etc. Et là oui, c'était vraiment un gameplay plus facile
Tony,
d'accès.
Tony Hawk,
ouais, enfin moi je trouvais pas ça super facile.
Ah mais moi je trouvais ça mais très 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 difficile. Je sais pas d'où est-ce que t'as été chercher que c'était facile Skate.
Bah j'avais trouvé que c'était plus spontané que les combinaisons de touches.
Voilà. C'est un poulpe.
Ça me semblait plus.
Il a des tentacules.
Ça me semblait plus naturel. Non, non. Hein. Ça me semblait plus naturel.
En tout cas, c'était plus réaliste dans ce qui se passait à l'écran.
Et même si on a toujours qu'une manette dans la main, ouais, hein, mais ça restait quand même plus.
Et bien justement, tu fais bien la transition parce qu'en fait, à côté de Skate 2, il y a Skate Heat. Hein. Donc qui va sortir fin octobre sur la Wii Balance Board.
Voilà, sur Wii avec l'accessoire Wii Balance Board.
Tu as déjà essayé Skate It, Mathieu ?
Non, j'ai vu des démonstrations. Skate It, c'est le remake du 1. Mais pas dans un univers ouvert, dans un système de mission. Mm-hmm. Donc ça utilise vraiment que la balance board. On n'utilise pas du tout la télécommande de la Wii, alors qu'on pouvait se dire que pour se diriger, ça va être un peu plus évident avec la télécommande. Ou alors il y a une autre version qui est juste avec la télécommande et on tient la télécommande à l'horizontale et on l'incline et plus ou moins fort pour se diriger et faire des tricks. Bah, visiblement c'est le créateur original qui a eu l'idée effectivement d'utiliser les sticks rotatifs qui allait demander à faire des versions Wii et aussi DS. Dans la version que j'ai vue, c'était la gueule du développeur qui était sur la planche à l'écran. Il en avait l'air plutôt content. Comme ce que vous disiez, je pense que ça rend le jeu plus réaliste pour les skateurs, mais aussi plus difficile d'accès, plus d'arrivée aux non-joueurs qui étaient plutôt habitués aux combinaisons de touches des jeux de combat. Donc point de vue sensation, si vous êtes skateur, je pense que ça va être assez fort. Enfin, skate est une très très bonne révolution.
De graber la planche.
Mais on fait des petits sauts quand même.
D'accord.
Ils ont plutôt fait des trucs. C'est la balance board, donc je suis d'accord.
Il ne faut pas sauter.
Ne sautez pas sur la balance board.
Il y a beaucoup de jeux d'éditeurs tiers qui exploitent l'accessoire aujourd'hui.
Pour l'instant, en Europe, il y a juste Family Ski qui est sorti.
Il y a les Lapins Crétins.
Il y a les Lapins Crétins 3 qui arrivent. Je sais qu'il y a beaucoup de projets en développement, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore annoncés. Soit chez Ubi ou chez EA encore.
Il y a des choses qui arrivent.
Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir quand même une grosse marque d'un gros jeu de skate, en fait, utiliser directement quelques mois après la sortie la Wii Balance Board, parce que c'est quand même le truc qui faisait envie. Quand on a vu la balance board, en tout cas, moi c'est vrai que le fitness me faisait pas forcément rêver, mais par contre le côté surf et skate, c'était autre chose. Donc ça c'est une des bonnes choses. Ça sort fin octobre ou fin novembre, je ne sais plus, le 30. Le 30 d'un mois, je ne sais plus.
Si le 30 d'un mois, allez.
C'est le 30 d'un mois. On va passer donc au festival du jeu vidéo, donc qui se tient Porte de Versailles à Paris le 26 septembre 2008. Vous allez y aller, Clément?
Je suppose. Enfin, je vais. Effectivement, c'est le seul salon crédible en France, le seul salon grand public crédible. Moi, ça fait très très longtemps que je regarde ce qui se passe en France. Il n'y a pas eu grand chose et j'étais présent à l'édition de l'année dernière et elle était pas trop mal du tout. Voilà, c'était assez intéressant.
Cette année, visiblement, il y a une transition vers plus d'espace. Enfin, le festival semble prendre de l'ampleur cette année. Donc ouais, je pense que c'est un rendez-vous qu'il faut.
Mais après, c'est vrai que c'est pas un salon qui se veut. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il se le veut, mais aujourd'hui c'est pas le cas. C'est pas un pendant français de l'E3 ou de Leipzig. C'est un salon plus orienté grand public, consommateur, public,
consommateur en fait,
voilà, ouais, consommateur. Français pour la fin de l'année, quoi. C'est vraiment les
jeux, ouais, qui sortent dans les semaines qui suivent juste après.
Voilà.
Donc,
je suppose que pour nous qui sommes des spectateurs, on va dire un peu plus privilégiés du jeu vidéo, c'est pas voilà, c'est, on va pas non plus
apprendre
grand chose.
Le festival du jeu vidéo, alors c'est très bien. Après, il y a ils font un prix, ils font des prix en fait. Ils vont faire un palmarès. Donc l'année dernière, je crois que tu faisais partie du jury.
Tout à fait.
Mais bon, cette année, tu y as échappé. Est-ce dommage? C'est un peu la question qu'on se pose, parce que
c'est-à-dire que j'ai pas marqué cette année de mon empreinte.
Non, c'est plutôt tu évites peut-être d'avoir à choisir des choix cornéliens.
Exactement.
Donc d'ailleurs, je vais vous poser une question. Donc en fait, il y a quand même la catégorie jeux console de salon où nous avons donc en nominé.
Oui, parce que rappelons-le quand même, c'est des jeux français qui sont
qui sortent dans l'année en cours, l'année calendaire
en cours,
entre janvier et décembre, qui doivent sortir cette année.
Même pas décembre. Je sais pas si ça prend le jeu.
Si, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore sortis.
Sur toute l'année,
sur toute l'année.
Les jeux 2008.
Donc en fait, moi, c'est la catégorie, normalement, sur ce genre de prix, c'est quand même la catégorie console de salon. C'est quand même là où on a les blockbusters les plus impressionnants et tout ça. Et donc là, il y a quand même... Je vais vous poser la question parce que je n'arrive pas trop à me décider. Nous avons donc en nominé Alone in the Dark, Xbox 360.
Mm-hmm.
Ouais. Spyro, Né sans un dragon.
Mm-hmm.
Et Wally pour PS2.
Ouais, voilà, voilà, tout est dit. Hein.
Ouais.
Alors, décidez-vous, je sais pas.
Moi, j'ai pas joué à Wally. J'ai joué à Alone in the Dark quand je jouais. Enfin voilà. Ouais, on en a parlé déjà ici.
Mm-hmm. Ouais, c'est déjà.
C'est vraiment médiocre.
Rendu sur le sujet.
Donc voilà, c'est un peu le problème. Il aurait peut-être fallu se passer de cette catégorie.
Peut-être.
Non, mais ceci dit, on est méchant.
C'est quand même difficile, je pense, de se passer de la console de salon.
Il y a quand même des catégories qui s'en sortent bien, avec par exemple le jeu console portable où on retrouve Big Bang Mini, donc le prochain jeu d'Arcade sur DS, et l'excellent Soul Bubble qui est aussi sorti sur DS.
Parce que à mon avis, les développeurs français ont peut-être moins de moyens, à part peut-être des équipes d'Ubisoft, ont peut-être moins de moyens que d'autres développeurs, et donc ils développent plus facilement sur des consoles où ça coûte moins cher, notamment la DS.
Et sur PC, ça donne quoi?
Et la très très bonne catégorie PC quand même, hein, parce que on retrouve Trackmania United Forever, qui est quand même, c'est quand même un des jeux français qui a une aura.
Bon titre. Oui, mais bon, on en est au 20e épisode, c'est le même concept. Enfin voilà,
c'est vrai aussi. Et Wakfu.
Parce que Wakfu
est un vrai jeu intéressant. Et Dracula 3, la voix du dragon, que je ne connais pas.
Que je ne connais pas non plus.
Que j'ai essayé, qui est bien.
D'accord.
Et très conservateur.
Mais c'est vrai qu'il y avait Dracula.
Puis jeu d'aventure, donc évidemment, je.
T'étais un peu obligé. Voilà, donc on va pas faire tout le palmarès parce qu'il y a aussi des jeux mobiles, donc là j'ai pas trop d'avis, hein, et puis les jeux jeunesse où je n'y connais absolument rien non plus. Voilà, donc festival du jeu vidéo le 26 septembre, porte de Versailles. Est une... Oh mon Dieu, il y a des cris. C'est donc. J'arrive à en placer une. Ça s'appelle Spore. C'est sorti sur PC.
Passage très violent, je crois, hein, dans le son. Hein, ça a l'air d'être assez.
Et sur DS, mais nous allons parler particulièrement de la version PC.
PC, ouais.
Clément. C'est toi qui
commence. Alors Spore, on l'attend depuis des années. Je me souviens de l'avoir vu il y a 2-3 ans à l'E3, et déjà il m'avait quand même au moins 3 ans, suppose. Et il m'avait déjà attiré l'œil. Pourquoi? Parce que alors c'est quand même le jeu de Will Wright, créateur des Sims. Enfin c'est quand même un personnage
emblématique
et qui a des idées de design assez libres. Voilà, ça fait partie de ces créateurs un peu comme Peter Molyneux qui font un peu ce qu'ils veulent. Et puis l'éditeur suit parce que ça va se vendre. On se rappelle aussi les Sims, combien ça s'était vendu. Alors c'est un jeu, c'est assez difficile de le résumer. On va dire que c'est un melting pot de différents gameplays. On suit une créature de l'origine, du stade cellulaire.
On va jouer à un truc, on va dire, tous les auditeurs savent à peu près à quoi ressemble.
Ok,
Spore.
Voilà.
Hein, donc ça va être trop long à expliquer.
Si vous savez pas, vous allez sur un site, vous tapez sur Google.
Voilà. Donc on va plutôt parler de ce qu'on ressent.
Voilà.
Alors moi, je l'attendais beaucoup. Je l'avais même précommandé. Donc j'y l'avais pré-téléchargé d'ailleurs.
Tu avais essayé l'atelier de créatures.
J'avais essayé les créatures, voilà. Et l'atelier de créatures qui était sympa, mais pour moi sans plus. Et alors, quand j'ai joué au jeu la première fois, j'ai été sous le charme. Voilà, la première phase créature, enfin cellulaire m'a plu. La deuxième phase créature était rigolote. À la phase tribu m'a un peu fait chier. Elle était vraiment.
Donc la phase tribu, c'est.
La phase tribu, c'est quand on est créature mais qu'on doit échanger avec d'autres petits villages.
Ouais, c'est un peu le jeu stratégiste
en réel. Voilà, ouais, très très léger. Et moi, j'ai vraiment pas beaucoup aimé la phase civilisation parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses à créer, beaucoup de trucs à créer. Et par contre, j'ai beaucoup aimé la dernière phase, la phase galactique.
Alors ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il y a une petite dizaine d'heures pour arriver à la phase galactique et que après c'est.
Ça prend une autre ampleur.
On sent qu'en fait c'est rigolo, ça c'est un peu l'évolution, c'est qu'on apprend au fur et à mesure les principes du jeu, puis après on comprend mieux, voilà, on comprend mieux en fait la big picture comme on dit, enfin le grand dessin. Par contre, c'est un jeu intéressant, j'aurais du mal. À en dire du mal ni du grand bien, c'est un jeu intéressant auquel il faut jouer. Je pense que c'est un des jeux qui sera un jeu étape. Voilà, c'est un jeu étape parce que c'est un jeu qui prend aussi beaucoup des créations des autres. On en a parlé la semaine dernière. Tous ces jeux comme Little Big Planet ou Spore, où les créatures avec lesquelles on va interagir sont des créatures créées par d'autres joueurs. Donc ça c'est assez rigolo.
Il y a tout un aspect communautaire qui est intéressant.
Après, moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il nous force à être, enfin, ce qui est compréhensible aussi, c'est qu'il nous force à passer par toutes les phases de jeu, pour les débloquer. C'est-à-dire qu'on peut pas commencer directement dans la phase galactique. Il faut d'abord faire le jeu une fois. Moi, maintenant, quand j'y rejoue, je joue qu'à la phase galactique. Les premières phases.
Tu recrées une créature de toute pièce, une nouvelle créature, mais tu l'amènes directement à la phase galactique.
Par exemple. C'est vrai que moi, je préfère ça. Après, c'est vrai que c'est un jeu, j'allais dire un jeu oui, dans le sens où c'est un jeu qui amène une nouvelle population au jeu. Voilà. Non mais c'est un jeu
raccourci.
Non mais voilà, c'est-à-dire que c'est un jeu qui peut plaire aux joueurs, qui peut être très frustrant pour les vrais joueurs, mais qui fera découvrir aussi ce jeu à une nouvelle population. C'est en ça que je disais un jeu oui. Et pour ça, il est assez intéressant.
Patrick.
Alors, c'est marrant, moi, j'ai une expérience un petit peu différente de celle de Clément, parce qu'en fait, moi, le début du jeu, j'ai pas accroché, en fait. L'aspect cellulaire.
Ça t'a pas plu.
Les 20 premières minutes, j'ai vraiment trouvé ça, espèce de Pac-Man, pas très intéressant. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on développe un relationnel très particulier avec le jeu. Parce que, on se sent, je pense que le joueur se sent responsabilisé par rapport à la créature qu'il façonne au fil des niveaux.
C'est
ce qui fait moi, je me suis attaché progressivement, à la bestiole qui s'appelle Blob, en l'occurrence.
Voilà, Blob. Ta créature s'appelle
Blob.
Moi, en fait, à chaque fois, je mettais, au début, elle avait un nom. Et que j'ai oublié. Mais à chaque fois, maintenant, je mettais le randomizer, en fait.
Il faut lui donner un nom.
Non, parce que moi, elle a tellement évolué que voilà. Elle n'avait rien à voir à la fin au début.
Et en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un des aspects intéressants du jeu. C'est ce relationnel qu'on crée avec le personnage, qu'on voit évoluer. Ce qui est un tout petit peu
dommage, c'est que on peut pas la façonner telle qu'on le souhaite. Parce que, si on la veut esthétiquement telle qu'on le souhaite, elle sera pas forcément efficace dans le jeu. Moi, je sais que, par exemple, pour qu'elle puisse.
Mais est-ce que c'est un jeu où on a envie d'être forcément efficace? Pas forcément. Après, ça dépend, du jeu que tu veux faire, enfin.
C'est vrai que moi, je l'ai vu vraiment comme un joueur. Voilà, c'est-à-dire que.
Alors, moi,
je voulais.
C'est un des points de Spore, ouais. C'est qu'on a l'impression, en fait, ça permet d'avoir plusieurs approches par rapport au jeu. On peut choisir l'approche plutôt militaire, agressive, l'approche, diplomatique.
Sociale.
Déjà, quand on choisit d'être carnivore ou herbivore dès le début du jeu, ça modifie complètement le gameplay, en fait.
Et si on modifie, on peut même être omnivore, en fait.
Et voilà, il y a une option où on peut débloquer.
Et j'ai l'impression qu'en fait, chez les joueurs, chez les gamers, en fait, il y a l'aspect carnivore.
Ah bah oui,
on va faire le choix.
Je suis passé carnivore au départ, après je suis remonté dans la phase médium à la phase créature.
Et t'es pas repassé végétarien.
Non, mais c'est vrai que aussi, en fait, on nous impose des choix. C'est-à-dire que dans la phase créature ou village, on nous impose de pour voir justement l'étendue du gameplay, on nous impose d'être amis avec telle tribu. C'est pas nous qui choisissons. Ouais. Voilà.
Et il y a un côté très scripté. Moi, c'est un peu ce qui m'a ennuyé. C'est la division du jeu en parties très très identifiées, qui fait que voilà, l'évolution n'est pas toujours très naturelle et que.
C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et moi, ce que j'ai noté, c'est que sur le site de Spore, sur Spore.com, hier ou aujourd'hui, ils ont mis en ligne les prototypes. C'est-à-dire que c'est une dizaine de concepts de jeux auxquels ils avaient pensé en préparant Spore.
Et puis, je pense, et pas mal d'extensions. Enfin, j'imagine qu'il y aura des choses qui vont, que le jeu va évoluer aussi.
Et sur les prototypes, t'en as retiré quoi?
C'est rigolo parce que c'est des prototypes, c'est pas vraiment des jeux. C'est vraiment des prototypes. On voit comment ils ont voulu construire certains,
certains types de gameplay, quoi. Et moi, j'ai retenu Gonzago GL, voilà, qui est, on le verra, si vous allez sur sport.com et regardez les prototypes, qui était assez intéressant. C'est, ce que j'ai aimé dans sport, en fait, c'est moins le côté expérience de jeu que tout ce qu'il y a derrière, en fait, de la création du gameplay.
Tout cet aspect qu'on appelle procédural, c'est-à-dire de tout recréer d'une manière assez automatisée, informatisée.
Parce qu'en fait, les choix que l'on fait à une époque du jeu ont des répercussions sur la suite, en fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien de cause à effet qui se...
Bah, c'est quand même un mélange de cinq gameplays totalement différents.
Et ça, je pense que c'est peut-être la problématique pour toucher un public qui est pas forcément très habitué aux jeux vidéo. Est-ce que,
moi, ce qui m'amuse beaucoup, donc, je reviens sur ce que t'as dit sur le fait d'imposer qu'il faut on n'a pas vraiment le choix parce qu'il faut que la créature soit efficace, mais j'ai l'impression que la problématique même de l'efficacité, c'est très gamer.
Ah, je pense, ouais,
en fait t'as révélé la chose, c'est que moi je l'ai vu dans une problématique d'efficacité, alors que autour de moi j'ai fait jouer à d'autres personnes, et c'est juste qu'ils prenaient vachement plus leur temps. Mais pour moi, il fallait que, quand on me donnait la mission, il fallait que je la résolve le plus facilement.
En fait, quand tu nous parles de sport, hein, tu parles beaucoup de toi, en fait, c'est ça.
Exactement, voilà.
Alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est que Will Wright a annoncé, il n'y a pas très longtemps, a confirmé la rumeur selon laquelle il y avait une fin au jeu. Il y a un objectif final qui termine le jeu.
D'accord.
Donc ça, c'est important de savoir qu'il y a une finalité. On continue à jouer la partie, mais on atteint un objectif. C'est important.
Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que c'est un jeu qui va au-delà du jeu. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un site qui s'est créé qui s'appelle Antisport. Et c'est un créationniste qui dit « Non, ce jeu enseigne la théorie de l'évolution, je suis contre. » Et c'est assez rigolo de voir tout le débat qu'il y a aussi derrière.
Bien sûr,
quoi.
Pour cette affaire, reportez-vous à l'excellent site écran.fr. Voilà. Donc, sport, Electronic Arts. Il y a une version DS que j'ai essayé hier soir.
Qui est plus limitée.
Il arrive sur mobile aussi.
Qui est beaucoup plus scripté, qui raconte plus une histoire. Mais
il arrive sur iPhone aussi.
Dis-moi, tu n'as pas joué à sport, hein, Mathieu?
Pas du tout, non. Moi, je joue pas sur PC, j'ai la honte.
Et ta perception un peu de cet univers, parce qu'on en a beaucoup parlé, sport, ça fait l'actualité. T'en as pensé quoi de ces expériences de game design?
De toute façon, Will Wright, c'est le meilleur gars de la Terre, puisqu'il dit que sa console préférée, c'est la Wii. on peut plus l'attaquer. Moi, je suis désolé. Moi, je l'ai vu surtout sur l'angle du marketing. Sur l'angle, effectivement, comme l'a dit Clément, du fait que Sports, il a été présenté, il y a un peu près de 5 ans, je crois, la première fois. Donc, il a fallu alimenter l'attente, faire monter le buzz et en même temps essayer de calmer les ardeurs des gens qui voulaient aller trop loin. Le fait de sortir pour la pré-réservation de l'atelier des créatures, c'est-à-dire de donner gratuitement un morceau du jeu, c'était une expérience marketing relativement fascinante. C'est une énorme machine. C'est surtout sur cet angle-là que je l'ai vu. Je pense que peut-être qu'Electronic Arts ne savent pas non plus si effectivement Will Wright va réussir à recréer le coup des Sims,
c'est-à-dire
amener vraiment plein de nouveaux joueurs, en particulier un public féminin sur PC, comme il avait su le faire magistralement avec les Sims. Peut-être qu'effectivement l'aspect chapitré et très objectivé de certaines parties du jeu le rend gamer, c'est une belle expérience de la part d'Electronic Arts. Et je pense que le Sportpedia aussi, c'est très bien fait.
Darwin est toujours en première place sur le Sportpedia.
J'ai pas suivi.
Il y a des gens qui ont recréé Darwin.
Il y avait Darwin dedans.
En version sport. Bon, on va accueillir comme chaque semaine Monsieur Fall de TrickTrack.net pour sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Eh bien bonjour mon cher Erwan, mon cher Clément et mon cher Patrick. On peut affirmer sans honte ni audace qu'il existe, on va dire en gros, deux grandes écoles dans le monde du jeu de société. L'école européenne, dite à l'allemande, avec des jeux de gestion, de stratégie, dans laquelle il va falloir réfléchir, optimiser, où les denrées diverses et variées seront représentées par des petits cubes qu'on va bouger sur des plateaux. Et de l'autre côté, l'école dite à l'américaine, avec des thèmes très forts, des jeux qui n'hésitent pas à proposer de grosses boîtes avec plein de figurines qui vont nous permettre de nous fighter la gueule à grands coups de monstres et de pouvoirs spéciaux. Dans cette catégorie, il existe un jeu, sorti il y a quelques années, répondant au doux nom de « Descente, voyage dans les ténèbres ». Il s'agit d'un dungeon crawling, c'est-à-dire un jeu où vous allez parcourir des couloirs avec votre personnage et votre bande. Vous allez ouvrir des portes, taper sur des monstres, récupérer des pouvoirs spéciaux, des objets qui traînent par là, des points de victoire, et puis vous allez continuer, marcher dans les couloirs, rouvrir des portes, taper sur des monstres, etc., jusqu'à finir un scénario. Descent est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui a ceci de particulier. L'un des joueurs va jouer les méchants, va gérer les monstres, et donc connaître le scénario, les faire apparaître les monstres dans les couloirs, alors que tous les autres vont jouer les gentils et vont se promener dans les couloirs pour taper sur les monstres. Ça ressemble à du jeu de rôle, ça a le goût, l'odeur du jeu de rôle, mais ce n'est pas du jeu de rôle. Ça reste un jeu de plateau avec des éléments qu'on va placer sur sa table. Alors si je vous en parle maintenant de Descent, c'est parce que Descent est une très très grosse boîte avec plein de figurines à l'intérieur, et des tas de scénarios, des tas de personnages, et vient d'arriver tout juste sur les étals là maintenant. Descent, la deuxième extension traduite en français. Cette deuxième extension s'appelle L'Hôtel du Désespoir. Elle est sous-titrée La Mort se terre dans les sombres recoins du monde. Et vous, bien sûr, vous allez courir après la mort pour lui taper sur le derrière de la tête. Donc voilà, mon cher Erwan, mon cher Patrick. Et mon cher Clément, si vous avez envie de cogner sur du monstre, je vous conseille Descent, Voyage dans les ténèbres, la boîte de base, qui a déjà 2-3 ans, et la nouvelle extension qui vient d'arriver, traduit et mis à disposition sur le marché grâce à Ubik, un éditeur français spécialisé dans ce type de jeu. Descent, l'hôtel du désespoir. À la semaine prochaine, mes amis.
Oh mon Dieu, comment ça fait peur. Merci, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net. On vous retrouve la semaine prochaine. Alors Mathieu, il va falloir nous expliquer la drogue, Nintendo, les points communs.
Donc vous avez tous reconnu, j'imagine, l'instrument du chien,
voilà,
dans Wii Music,
voilà,
et avec une super composition à la fin.
Quelle race de chien d'ailleurs?
C'est un mise déguisé en chien. Après, voilà.
On n'est pas en train de taper sur un chien dans Wii Music, Patrick.
Voilà.
Et c'est quoi la question sur la drogue?
La drogue
Nintendo.
Nintendo
fait toujours des trucs bizarres.
Ah oui, d'accord. Donc Wii Music, on pourra jouer du chien.
On pourra jouer de 60 instruments dont le chien, dont le DJ sur turntable, dont la boombox à la bouche, les Mi vont faire ça. Et ça en bougeant sa télécommande et sa Wiimote sans besoin d'autres accessoires. Et le but, c'est comme vous l'avez pu voir, c'est d'arranger et de mettre à son goût comme on l'aime plus de 50 trucs qui sont des hymnes internationaux, donc ça peut être des comptines, ça peut être de la grande musique classique, ça peut être de la pop sucrée et débile, et tout ça, le but c'est un peu le garage band de la Wii Music. On vous donne une trame de base et c'est à vous d'exprimer votre personnalité. Alors vous pouvez le faire en solo, vous pouvez vous faire chier à recréer avec la Wiimote et le Nunchuk chacun des partitions de chaque instrument pour ensuite faire votre propre composition. Moi j'ai vu le réalisateur du jeu qui avait fait une version Daft Punk de Petite Musique de Nuit. C'était très impressionnant.
Et tout ça avec Wii Music, avec le Nunchuk et la Wiimote.
Exactement.
Ah oui, c'est quand même un genre qui est, on va dire, surpeuplé sur la fin d'année ou dans les mois qui viennent, parce que il y a tous les jeux musicaux qui arrivent chez pas mal d'éditeurs. Pour toi, qu'est-ce qui va vous permettre de vous distinguer par rapport aux titres concurrents?
Alors, c'est très 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 bonne remarque, mon cher Patrick. Tout d'abord, faut savoir que effectivement, on est au milieu d'une prolifération de jeux de rythme. Oui. C'est comme ça que Monsieur Miyamoto les appelle. Donc effectivement, la première présentation de Wii Music à l'E3 a été une catastrophe internationale. Ça s'est crashé en beauté devant le public des médias américains et internationaux.
Pourquoi crash?
Parce que les gens s'attendaient effectivement à un jeu de rythme.
Ouais.
Et que Wii Music est tout sauf un jeu de rythme en fait. Le but c'est que Wii Music c'est un jeu qui fait partie de la série des Wii machin choses, donc Wii Sport, Wii Fit, Wii Play. Le développement de Wii Music a été commencé en même temps que chacun de ces projets-là. Donc c'est le projet qui a mis le plus de temps à mûrir en fait, parce que c'était celui qui était le plus difficile à manier, puisque un jeu de rythme, si on n'a pas le rythme, si on fait pas les bonnes notes, ça plante. Le but de Wii Music,
c'est que ça plante pas.
c'est que ça plante pas, voilà.
C'est que les gens s'amusent.
C'est que la prise en main soit rigolote à regarder, sans avoir besoin d'accessoires, que ce soit amusant à jouer en groupe, sans besoin d'avoir un gros investissement, et surtout que personne soit laissé sur le bas-côté parce qu'il y en a un qui arrive pas, et qui fait des fausses notes affreuses et qui chie le morceau.
Est-ce qu'il y aura un challenge suffisant, pour les joueurs qui sont vraiment férus de, tous les jeux de rythme?
Amuse-toi à créer, je ne sais pas quelle comptine en version Daft Punk, et on en reparle.
C'est comme l'atelier des créatures dans sport, c'est un jeu qui fait appel à votre sens de la création.
Ça vise quel public en fait?
Wii Music, c'est Monsieur Miyamoto l'explique en disant écoutez, avec Wii Fit, moi j'ai voulu essayer de faire que les gens qui détestaient le sport tout à coup prennent conscience de leur corps. Donc c'est vraiment un jeu qui veut initier les gens à la forme et à faire de ressentir des choses de façon physique. Miyamoto dit moi je pense qu'il y a plein de gens qui sont passionnés de musique, qui aimeraient faire, qui ont peur du solfège, qui ont peur de la façon dont on manipule un instrument de musique. Une guitare, c'est quand même assez chiant à vraiment manipuler, sauf s'il y a des clonk-clonk et des frettes en plastique. Le but, c'est d'essayer de donner quelque chose qui permette aux gens d'exprimer leur créativité, aussi de s'amuser à plusieurs de façon facile. C'est pour tous les publics. Alors, visiblement, il y a un public qu'on s'est mis complètement à dos, c'est celui des gamers qui s'attendaient quand on leur disait.
Une annonce.
Alors, Clément, représentant officiel du public des gamers.
Ah bon, c'est moi le représentant.
Aujourd'hui, oui, je viens de te déclarer.
Voilà. Non, mais c'est vrai que Wii Music, moi, m'a laissé vraiment de marbre.
Tu as raison Mathieu.
C'est vrai que moi je suis plus je suis un vrai musicien de formation, donc c'est vrai que ça me juste gigoter comme ça sa Wiimote pour faire de la musique, j'y vois pas l'intérêt. Peut-être que j'y verrai l'intérêt avec mes amis qui sont pas joueurs, et peut-être que
mais c'est pas un jeu positionné gamer en tant que tel.
C'est plutôt
grand public, d'après ce que tu nous disais, c'est plutôt accessible.
Visiblement, détester l'atelier des créatures, c'est pas un créateur, non, c'est un destructeur. Il aime conquérir, il aime imposer sa volonté sur les autres. Donc ce désir-là, Wii Music n'y répond pas, c'est sûr et certain. Mais si vous êtes un gamer créateur, si vous n'avez pas fait juste un pénisaurus dans sport, vous allez pouvoir vous amuser dans Wii Music. Je pense pas que les gamers, c'est juste des gens qui veulent shooter.
Non, évidemment,
c'est des gens ou détruire l'humanité. Il y a différents types de gamers qui ont des aspirations différentes. Les gens qui maîtrisent à mort les Sims, c'est pas forcément ce que vous pourriez appeler des gamers, mais ils sont devenus des gamers parce que c'est devenu des spécialistes de Sims.
Justement, Nintendo est en bonne partie, on va dire, à l'origine de l'élargissement du marché dont on parle beaucoup aujourd'hui avec de plus en plus de joueurs de tous âges qui viennent aux jeux vidéo. Alors justement, tu parlais des gamers à l'instant. Qu'est-ce que le gamer sur Nintendo peut attendre aujourd'hui pour la fin d'année ou pour les prochains mois? Est-ce que vous avez des titres
Alors, si vous voulez du gros, enfin, visiblement, vous avez l'acceptation américaine du terme de gamer, c'est-à-dire super production qui fait bim boum dans tous les coins.
Non, pas forcément.
Bah, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous attendez sur Wii?
En fait, le débat qu'on a déjà eu ici, c'était à la sortie de Super Smash Bros. Brawl, où en fait, on s'était dit, depuis la sortie de la Wii, il y a régulièrement, alors il y a Super Mario Galaxy, il y a Mario Kart,
il y a Zelda.
On ne parle pas juste des trucs qui détruisent l'univers. Zelda, et en fait, il y avait Super Smash Bros. Brawl, et puis on a eu cette impression après Super Smash Bros. Brawl, qu'est-ce qui arrive comme titre emblématique du côté de Nintendo? On savait pour Wii Music, qui était déjà, comme tu l'as dit, Wii Music fait partie de la catégorie des Wii quelque chose, et donc
plutôt grand public, on va dire.
Voilà. Non, mais c'est pas une question de public, c'est plutôt une question de jeux vidéo, de vrais jeux vidéo dans le sens classique du terme, et non pas dans le sens Wii quelque chose.
Non, moi, le jeu qui m'excite le plus sur la fin d'année sur Wii, mais c'est à cause du, c'est à cause des gens qui composent le studio, c'est Disaster Day of Crisis, de Monolith Soft, c'est des gens qui ont fait Xenosaga, qui ont fait Baton Kaito sur GameCube.
Le jeu,
il est en développement depuis, depuis avant l'annonce de la Wii, donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui a été fignolé à mort. Quand ils ont présenté le projet, Nintendo Japon a racheté le studio à Bandai Namco tellement ils en étaient contents.
Ah oui, direct.
Fait. Donc ouais, donc ils rachètent pas.
Ça leur faisait un jeu quand même.
Clément, je suis obligé à jouer à Animal Crossing, Let's Go to the City sur Wii qui sort sur la fin d'année aussi, qui est fait aussi un jeu pour les gamers.
Non mais qui est un jeu pour les gamers. Animal Crossing, effectivement,
j'avais oublié Animal Crossing.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression, enfin moi ce que je trouve peut-être dommage, mais j'ai la Wii chez moi et puis elle prend pas la poussière, j'y joue quand même, mais c'est que les jeux, entre guillemets, les jeux auxquels je joue sur Wii, à part quelques exceptions, c'est des univers que je connais déjà, c'est du Metroid, du Mario, du Zelda, du Mario. du Mario Kart. Enfin, c'est des jeux auxquels je joue depuis que j'ai 8 ans. C'est des franchises que je connais depuis que j'ai 8 ans. Et à part Animal Crossing, bon, qui plaît aussi aux joueurs, il n'y a pas de grosses créations, chez Nintendo. Il y a des jeux super intéressants, créés par des éditeurs tiers. Mais, chez Nintendo, c'est vrai qu'on a toujours cette impression de, vous renouvelez dans le genre. Le Super Mario d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Super Mario d'avant, mais ça reste un Super Mario. Et il n'y a pas de nouvelle création de franchise. C'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir une nouvelle création de franchise chez Nintendo, parce qu'on sait qu'effectivement, vous savez faire aussi des jeux.
Des jeux, oui.
Monsieur Miyamoto a annoncé il y a juste avant au début 2007 je crois, ou fin 2006 effectivement, en même temps que Super Mario Galaxy, il travaillait sur une nouvelle propriété intellectuelle, une nouvelle IP comme on dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que ça prend beaucoup plus de temps, de faire quelque chose dont ils sont très fiers et qui pensent que ça vaille la peine de sortir sous un nouveau nom, plutôt que de juste coller effectivement un petit déguisement de Mario dessus et puis dire,
mais c'est vrai que par exemple les Pikmin, voilà, moi j'avais apprécié, c'était un nouveau genre, un nouveau jeu, voilà, c'était pas forcément violent, c'était intéressant, mais je pense que comme beaucoup de joueurs, on attend d'autres jeux, enfin qui sortent des licences connues chez Nintendo, quoi. C'est vraiment.
Enfin, Nintendo veut aussi inventer pour le futur et pas juste se reposer sur ses créations passées. Je pense que ça prend juste beaucoup de temps à faire, puisque tout est. Il n'y a pas de chez Nintendo. C'est du travail en bac à sable, le développement, c'est-à-dire que c'est des toutes petites équipes qui bossent de leur côté et qui ont un review process, c'est-à-dire une présentation devant Monsieur Miyamoto tous les 6 mois. Donc il y a pas, c'est pas genre ah bon alors les gars, voilà la Bible, voilà quand il faut quand ça sorte, go. ça fonctionne pas du tout comme un studio américain Nintendo. C'est vraiment des gens qui c'est 1800 personnes.
C'est artisanal, ça reste artisanal à 1800 personnes.
Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'espace consacré au développement et que quand il y a un projet qui sort du lot sur lequel ils disent il faut qu'on staff, ils y vont franchement. Donc effectivement vous savez peut-être Super Smash Bros Brawl, ça a commencé sur un petit studio indépendant qui était même pas chez Nintendo, puis à la fin il y a Nintendo qui a ramené 900 personnes sur le projet à la fin pour le terminer. C'était vraiment une vraie super production en termes de jeux vidéo. Mais effectivement, les sujets, les concepts à la base chez Nintendo, c'est développé par des toutes petites équipes. Alors ça arrive que ils commencent, ils avancent, ils passent quelques review process, et puis au bout d'un moment, les projets s'éteignent. Il y avait toujours à chaque E3 sur les E3 du grand temps où ça coûtait des millions
les
de faire un stand. Les E3 très chers.
On est pas du même côté.
Il y avait toujours, je sais pas si vous vous rappelez, des petits coins où on présentait des jeux avec des concepts complètement zarbi, en disant ça va peut-être sortir un jour, et finalement la plupart de ces jeux-là ne sortaient jamais. Mais on essayait de tester l'attente et l'accueil des gens sur des nouvelles idées. Nintendo travaille sur de nouveaux personnages, de nouvelles idées. Je pense pas qu'elle sorte tant qu'ils en seront pas, quand ils en seront pas contents.
Tant que ça, ne remplit pas les critères Nintendo.
Mais parce que, alors, c'est, parfois on a l'impression que, puisque on va dire que les jeux casual qui coûtent pas très cher à fabriquer se vendent très bien, on se dit, effectivement, est-ce que ils ont pas intérêt à sortir ces jeux-là plus tard quand il y aura le creux de la vague? Aujourd'hui, la Wii se vend très bien avec des jeux, on va dire, pas fait que par vous, mais par des jeux casual qui coûtent pas forcément très cher à fabriquer. Enfin, on se doute qu'un voilà, un Wii Sport, c'est pas non plus, voilà, le même budget de production qu'un Super Smash. Et la question, c'est est-ce que, en fait, vous profitez pas de cet engouement qui est pas artificiel, mais de cet engouement avec des jeux normaux, plutôt que de créer en fait une demande en plus auprès des gamers avec des gros jeux. C'est la question est plutôt là. Est-ce que en fait, parce que par exemple, on le voit là les salons.
Clément, ta question.
La question. Voilà. Je vais préciser. En gros, là on le voit à l'E3, Nintendo était présent, mais à Leipzig il était pas présent. Et au Tokyo Game Show, il sera pas présent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Nintendo sort, on va dire, du marché du jeu vidéo classique. C'est-à-dire que normalement, c'est des salons où, sur lesquels, quand on est constructeur de consoles, faut être présent. Et comme ça marche très très bien pour eux, on a l'impression qu'ils s'en sortent, qu'ils disent, voilà, ça marche tout seul, donc pas besoin de gros jeux, pas besoin de machin, pas besoin d'être présent sur les salons. C'est cette impression-là en fait qu'ont les joueurs en fait.
Oui, non, je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ont été complètement délaissés par Nintendo. Mais encore une fois, l'année dernière on était présent à Leipzig sur la Game Convention et la taille de notre, enfin la plupart de notre stand était consacrée à Wii Fit et on s'est fait ramener la gueule à part les gamers qui ont dit mais t'as pas Nintendo. Donc très clairement, cette année, oui, on allait en prendre plein la tronche. Donc, on n'y est pas allé. On va jamais au Tokyo Game Show, en fait. On a juste fait une conférence pour la présentation de la Wii une fois, et puis c'était tout. Donc, on laisse franchement la part belle aux éditeurs tiers. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un pré-planning du Tokyo Game Show qui a été dévoilé la semaine dernière. Et le plus grand nombre de jeux présenté au Tokyo Game Show, il est sur Wii. On n'est pas les seuls à travailler sur Wii. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on on emploie 1800 personnes au développement chez Nintendo. Comme Clément le dit, certains jeux top génération, c'est des petites équipes qui sont pas nombreuses. Donc vous pouvez pas vous dire, vous vous êtes dit que Nintendo ne travaille que sur deux jeux top génération, mais ils sortent pas. Vous pouvez pas vous dire que Nintendo donne un chèque à chaque mois à ses développeurs à ne rien foutre. Ils travaillent sur des gros projets, annoncés ou pas annoncés. C'est juste que, ils sont très 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 perfectionnistes chez Nintendo et que, vous pouvez le voir aussi, les annonces sont quasiment surprises. Par exemple, Disaster, il a été annoncé la semaine dernière au Japon pour une sortie le 25 septembre. Donc, à 3 semaines et personne n'y a joué, il y a que 3 screenshots qui traînaient avant l'annonce de la semaine dernière sur internet à l'époque. Nintendo ne veut vraiment annoncer ses projets que quand ils en sont contents et satisfaits. Contrairement effectivement à ce qu'on peut voir sur Sport qui est annoncé 5 ans à l'avance et qui fait monter le buzz. Par exemple, visiblement ce week-end, Hideo Kojima a publié sur son blog une remarque qui disait: j'en ai marre des jeux vidéo qui sont buzzés des années et des années à l'avance avec des budgets monstrueux et ensuite on repasse à l'autre buzz du prochain projet. Et
pour
on
toi,
lance
le,
pas
le
ça
bon timing,
change
le bon
dans
timing
les...
c'est de présenter un jeu quoi 6 mois avant qu'il sorte ou même pas.
Nous en Europe, quand on dit mais ça va pas la tête, les magazines ils ont bouclé 6 mois à l'avance et Electronic Arts il a acheté toutes les couvertures jusqu'à la fin de l'année, comment on va faire? On a besoin d'avoir des événements et des annonces 6 mois à l'avance. Et Nintendo Japon dit non, nous c'est 2 mois maintenant.
2 mois. Ah ouais.
Donc ils prennent vraiment. Ils prennent vraiment à contre-pied les habitudes du jeu vidéo.
C'est exactement ça. Ils prennent à contre-pied les habitudes du jeu vidéo.
Juste une question. Vous avez présenté à l'E3 le Motion Plus pour la manette, donc pour la Wii Mote. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Quand ça sort et ce que ça va apporter exactement?
Alors, je suis désolé, j'aurais beaucoup tapé sur Clément.
C'est pas grave, il est là pour ça.
Vas-y, lâche-toi. Vas-y, lâche-toi.
Donc Clément dit, oh, Wii Sport, c'est quand même facile à faire. Non, Wii Sport, c'est pas facile à faire parce qu'effectivement, la télécommande Wii, pour qu'elle reconnaisse vraiment bien les mouvements, faut l'aider parce qu'elle reconnaissait pas tout avant l'arrivée du Motion Plus. Donc fallait développer des middleware qui permettaient de finaliser la reconnaissance des mouvements.
Middleware, c'est du software, enfin c'est du logiciel
qui permet tout à fait, qui est de programmation, qui n'est pas dans la main des consommateurs, mais uniquement dans la main des développeurs. Donc ça a demandé du travail à faire des choses plutôt fines et qui faisaient pas n'importe quoi à l'arrivée. Alors tout n'est pas parfait dans Wii Sport, en particulier dans le tennis, il y a des trucs un petit peu chauds. Mais par exemple, comparé à 80% de la production d'éditeurs tiers sur qu'ils essayaient de recommencer, de faire de la connaissance de mouvement, c'était un petit peu chaud.
C'est sûr. Ouais.
Et c'était très 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 réussi Wii Sport. Donc il y a eu des vrais efforts de développement, de R&D, de recherche et de finalisation du produit. Alors comme je le dis, ça a été quand même un cauchemar pour les éditeurs tiers. On a essayé de les aider en leur proposant des sources de programmation. Ça a pas réussi jusqu'à présent. Par exemple, on a Ubisoft a beaucoup retardé l'annonce de Red Steel 2 parce que très clairement Red Steel 1, au point de vue connaissance de mouvement, c'était pas récent. Donc le Motion Plus c'est fait pour que plus personne se prenne la tête à essayer de programmer et à finaliser la reconnaissance de mouvement sur de la télécommande, que ce soit du 1 pour 1 parfait. Et aussi que ce soit super hyper pas cher, parce qu'on aurait quand même un peu la haine de dire aux gens.
Et c'est pour quand?
C'est pour le printemps prochain, avec il sera fourni séparément ou avec Wii Sport Resorts, qui est la suite de Wii Sports.
Eh ben merci beaucoup Mathieu, on a quand même appris.
Désolé pour Clément.
Je pense qu'il t'en voudra pas. Donc c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle. On va essayer d'aller vite parce que le réalisateur n'en peut plus. c'est un problème technique, hein, ça n'a rien à voir avec nous. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Je vais essayer d'aller très vite. J'ai un titre qui est long, donc ça va être. Donc j'écoute beaucoup le dernier album de David Byrne et Brian Eno qui s'appelle Everything That Happens Will Happen Today. Très bon album, même s'il est un petit peu moins bien que le premier qu'ils avaient fait ensemble, qui était My Life in the Bush of Ghosts de 81, qui était un album expérimental génialissime.
Clément.
Voilà. Moi, je suis allé voir Bridget Riley au Musée d'Art Moderne de Paris, et il faut pas, enfin voilà, ça m'a moyennement plu. Voilà. Simple, rapide.
Mathieu, quand tu joues pas.
Moi, je fais de la culture populaire, je lis le dernier Stephen King, Lisa's Story.
Eh bien, merci à tous, et on se retrouve très bientôt pour parler de Libellabo, pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo, je vais y arriver. Merci.
Libé Labo.